Nous sommes tellement encouragés ce soir, amen, par l'action de Dieu, l'action par son esprit. Il vit pleinement en nous et puis il désire communiquer la vie, amen. Écoutez, ce soir, je vous propose un texte que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu. Et c'est un texte au chapitre 3 que je redécouvre et je suis tellement touché par son contenu. Je vous propose quelques clés ce soir, bien entendu, en relation avec la confiance. Je vais encore prier. Père, nous ouvrons ta parole, et ce n'est pas lettre morte. Elle est vivante, ta parole. C'est clair que, Seigneur, si nous la posons de côté, elle est morte. Mais lorsque nous l'ouvrons, Seigneur, lorsque ton esprit vient l'éclairer, elle prend vie, Seigneur, parce que ta parole est vivante. Je te prie, Seigneur, d'inscrire maintenant ta parole dans nos cœurs. Que nous puissions pleinement, Seigneur, vivre aussi grâce à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Les premiers chapitres de Matthieu sont absolument extraordinaires en événements. Premier chapitre, et je vous dis cela simplement pour poser un petit peu le fondement de ce soir. Nous avons bien entendu la généalogie de Jésus, son origine, comment est-ce qu'il est venu, les générations qui l'ont précédé. C'est très important parce que le Seigneur travaille toujours, bien sûr, avec les générations. Ensuite, il y a la naissance de Jésus. Voilà qu'il y a Marie qui, par l'action du Saint-Esprit, se trouve enceinte. Ensuite, au deuxième chapitre, nous avons les mages à Bethléem qui viennent rendre hommage à Jésus, au nouveau-né. Et puis il y a l'intervention d'Hérode, il y a ensuite la menace d'Hérode, il y a ce songe que Dieu donne à Joseph pour la fuite en Égypte, et il y a le massacre des enfants de Bethléem. Et c'est absolument troublant de voir que dans l'Évangile, il y a ce genre de choses. Deuxième chapitre parle déjà d'un immense massacre, la venue de Jésus perturbe. La venue de Jésus engage quelque chose aussi de dur. Et là, on voit une première notion du combat spirituel. Je pense que ce soir, nous sommes dans le thème. Ensuite, après la fuite de la famille en Égypte, Jésus revient dans sa ville, demeuré dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été déclaré par les prophètes, et il sera appelé Nazaréen. Ensuite, il y a ce chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, il y a vraiment des clés absolument extraordinaires. Plus je le lis, plus je le regarde, plus je me rends compte que Dieu a un plan absolument extraordinaire. Il y a déjà le précurseur. Vous rendez compte là, l'humilité de Dieu d'annoncer son fils par un homme mortel. Certes, un prophète, mais un homme quand même. On voit déjà l'humilité de Dieu de voir précéder l'œuvre de son Fils par un homme nommé Jean-Baptiste. En ce temps-là, paru, verset 1er du chapitre 3, Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Parfois, on a l'impression peut-être de prêcher dans le désert, en tout cas pas ici. Mais ne vous inquiétez pas, il y avait aussi un précurseur à l'époque. Il disait, et je pense qu'on peut le dire avec lui, « Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. » On peut le dire ensemble, « Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Nous avons bien entendu ce témoignage dans Ésaïe 40. Jean avait un vêtement de poil, de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Le baptême de repentance par la confession des péchés, nous le pratiquons encore aujourd'hui. Mais bien sûr, dans le nom de Jésus, on va en parler un peu plus tard. Comme il voyait venir au baptême nombre de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de repentance. » Verset 9, notez-le, c'est important. « Et n'imaginez pas pouvoir dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de lui porter ses chaussures. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Amen. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Première mention de l'enfer ici. Matthieu 3, on parle déjà de l'enfer. C'est dire combien le combat est grand, c'est dire combien le combat est engagé, et c'est dire combien il fallait que le Fils de Dieu vienne. Amen. C'est capital, sa venue. Première mention de l'enfer, chapitre 3 de Matthieu. Un combat est engagé. On va plus loin. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour se faire baptiser par lui. Soumission de Jésus au prophète qui annonçait sa venue. Parce que qui est plus grand, celui qui se fait baptiser ou celui qui baptise? On sait que Jésus est beaucoup plus grand. Mais dans sa nature humaine, il se soumet à Jean-Baptiste pour être baptisé. Il y a une obéissance. Et regardez ce que l'obéissance va produire. C'est absolument extraordinaire. Bien sûr, Jean s'y opposait. Il a pigé quand même un petit peu, hein, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Humilité de Jésus qui va payer, vous verrez. Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment. Pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Le terme, c'est vraiment la justice selon Dieu, ce n'est pas la justice selon les hommes. Alors Jean le laissa faire. Soumission aussi du prophète à la parole de Jésus. Il y a quelque chose de fort qui se passe. J'espère vraiment que l'Esprit peut vous éclairer, comme il essaye de le faire pour moi ce soir dans sa parole. Il y a des enjeux là absolument extraordinaires. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Bien sûr, c'est le baptême par immersion et la parole de Dieu est claire là. Et voici les cieux s'ouvrir. Si tu as envie de te faire baptiser, ce n'est pas encore trop tard pour t'inscrire au cours de baptême. Approche-toi de nous. Vendredi, il y a le cours de baptême. Nous parlons de ces choses. C'est important, c'est capital. Voici les cieux s'ouvrir par l'obéissance de Jésus. Les cieux s'ouvrent, bien-aimés. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui se fit entendre des cieux, et elle fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection, ou celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais ce verset 17 est un verset absolument clé dans le contexte. Par l'obéissance et la soumission de Jésus, dans sa venue ici-bas, pour la première fois, la voix du Père se fait entendre. Ça, c'est extraordinaire. Pour la première fois, la voix du Père, celui-ci est mon fils, donc le Père parle. Et le Père veut aussi parler aux pharisiens autour. Parce que je vous ai demandé de noter le verset 7 du chapitre 3, toujours, au verset 9, pardon. N'imaginez pas pouvoir dire en vous-même, nous avons Abraham pour Père. Il y a plus qu'Abraham comme Père. Et Jésus, dans son obéissance, a permis que les cieux s'ouvrent pour que le Père, pour la première fois, révélé dans l'Évangile selon Matthieu, dans ses premiers chapitres, la voix du Père se manifeste grâce à l'obéissance de Jésus. Et il n'y a pas souvent que le Père a parlé, mais là, dans l'obéissance, le Père a parlé. Et voici que le Père donne toute l'affection à son Fils parce qu'il s'est soumis, parce qu'il a obéi. Tu veux marcher dans la confiance de ton Père. Tu veux marcher dans la grâce de la bénédiction du Père. Tu veux marcher dans l'assurance des pas que le Père a préparés pour toi. Eh bien, soumets-toi, entre dans l'obéissance, parce que le Seigneur va certainement aussi déclarer sur ta vie, tu es mon fils, tu es ma fille, envers qui j'ai toute mon affection, parce qu'il l'a dit à son fils. Et nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu, et nous avons cette grâce d'avoir cette parole du Seigneur sur nos vies. Fallait-il que Jésus ait ce témoignage du Père pour qu'il soit envoyé ensuite dans le désert? Voyez, il y a cette scène absolument extraordinaire de ces cieux qui s'ouvrent, de la voix du Père qui vient, de la voix du Père qui vient témoigner toute l'affection pour son fils. Et l'affection va continuer lorsque Jésus va être envoyé dans le désert. Je voudrais t'encourager ce soir. Tu as l'affection du Père. Tu as l'affection de celui qui déclare que tu es son enfant. Mais il y a plus que ça. Il y a un combat qui sera livré. Il y a un combat sérieux qui sera livré sur ta vie. Et je pense que la déclaration de l'affection du Père a pris tout son sens aussi lorsque Jésus est entré dans le désert. Alors, verset 1er du chapitre 4, « Jésus fut emmené par l'Esprit Saint, noté par l'Esprit Saint, dans le désert pour être tenté par le diable. » Là, c'est cache. Ce que j'ai noté dans le terme « d'emmener », il est plus juste de dire « fut porté », « fut élevé ». Et quand j'ai découvert cela, ça m'a réconforté parce que dans le combat spirituel qu'il y a, eh bien le Seigneur, par son esprit, va m'élever. Amen. Il va me donner l'autorité. Jésus, il est entré dans le désert, on pourrait l'imaginer croulant dans le désert, et c'est chaud, bien entendu, bien sûr qu'il a souffert certainement durant ces 40 jours. D'ailleurs, on parle de jeûne dans ce passage. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim, mais regardez l'entrée de Jésus, il a été porté par le Saint-Esprit, il a été soutenu par le Saint-Esprit, il a été élevé par Dieu le Père alors qu'il entrait dans le désert. Et c'est exactement pour toi, lorsque tu t'engages pour Dieu ton Père dans l'obéissance, lorsque tu as ce témoignage de la grâce de Dieu, de ce que tu es l'enfant de Dieu bien-aimé, dans le combat, dans le désert, Dieu va t'élever, amen. Dieu va te porter aussi par l'Esprit. Il y a des clés dans ce passage, je vous le dis. Alors bien sûr, le combat est engagé, je l'ai dit, dès ces premiers chapitres dans Matthieu, il y a un combat spirituel. Il y a des notions que nous devons saisir dans la parole de Dieu. Le tentateur s'approche de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Première attaque, besoin vital. Première attaque de l'ennemi, souvent ces attaques premières, c'est les besoins vitaux qui sont concernés. Dieu est là pour te garder, bien entendu, mais l'ennemi est là pour te piéger dans ses besoins vitaux. Ce n'est pas que tu n'en as pas, bien entendu, qu'on a tous des besoins vitaux, mais le premier besoin, bien entendu, Jésus donne la réponse, c'est de se réfugier dans le Seigneur. Amen. Si tu es fils de Dieu, c'est étonnant aussi de voir que le diable mais un doute parce qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est le champion du doute. Si tu es le Fils de Dieu, il s'adresse au Fils de Dieu, il s'adresse au Dieu créateur, il sait qu'il est le créateur. Mais dans ce besoin vital, il essaye de mettre un doute. Et c'est exactement la même chose. Nous devons savoir, nous devons connaître l'identité que nous avons dans le Seigneur, parce que face au combat spirituel, le diable peut aussi mettre un doute sur ton identité. Ta confiance, elle va jusqu'où dans le combat, dans ses besoins vitaux, dans ton identité qui est aussi un besoin vital pour qui tu es, dans l'établissement du Seigneur qu'il a pour toi. Bien sûr, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Les paroles de la bouche de Dieu te nourrissent. Elles sont où? Elles sont dans la parole. La pratique de la parole de Dieu dans ses paroles, elles te nourriront. Amen. C'est vraiment cela dont on a besoin en premier. Le besoin vital de l'homme, c'est de rencontrer Dieu et d'être nourri par ses paroles. Et c'est ce que nous faisons cette semaine. Amen. Nous taisons notre faim, nous taisons notre estomac. On commence un petit peu à avoir faim, c'est vrai. Mais Seigneur, je veux crier pour cette nourriture vivante qui sort de ta bouche, Seigneur. Amen. Pour fermer la bouche du diable. Alléluia. Parce que le combat est engagé. Le diable le transporta ensuite dans la ville sainte, le plaça sur la terrasse du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, de nouveau, un doute, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte une pierre. Vous vous souvenez de ce psaume 91? Et nous le connaissons, et nous le citons, et lorsque nous sommes dans la confiance et que tout va bien, eh bien nous le citons, c'est formidable. Et je le lis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, oui, mon Dieu en qui je me confie, N'est-il pas question de confiance cette semaine? Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Jésus connaissait ces paroles. Jésus se réfugiait déjà dans le Père. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Et ce verset que le diable sort là au milieu. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lion sur le dragon, tu marcheras sur le serpent. Mais comme il est fin, le diable. Jésus avait aussi ces paroles dans son cœur. Il y a une séduction là, il y a comme une provocation, il y a comme une moquerie, si tu es le Fils de Dieu. Et bien sûr, l'issue que Jésus a dans ses paroles, parce qu'il ne veut pas attenter à sa vie. Et de grâce, frères et sœurs, nous ne voulons pas faire des choses soi-disant pour le royaume en mettant volontairement nos vies en danger. Vos vies sont bien précieuses. Ne faites pas cela. N'ayez pas une confiance à ce point. Parce que là, c'est une séduction de l'ennemi. Prenez soin de votre vie, bien sûr, et ne la mettez pas, à moins que vous soyez exposé par la persécution ou je ne sais quoi, mais volontairement pour provoquer le Seigneur, non. C'est aller trop loin. Jésus lui dit, d'autre part, j'ai une autre écriture, moi, qui est aussi la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Pas besoin de vivre la confiance en tentant le Seigneur. Amen. Pas besoin de défier le Seigneur lorsque je suis en confiance avec lui. Verset 8, le diable transporta encore sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Là, il y a cette tentation de l'adoration. Il y a cette tentation de ce qui nous habite, de ce qui nous tourne, parce que nous sommes des êtres spirituels aussi, de ce qui nous tourne vers l'adoration. Le diable essaye de jeter cette dernière cartouche, de lancer cette dernière cartouche pour essayer de séduire Jésus dans l'adoration. Mais c'est tellement gros. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul, tu lui rendras un culte. Confiance dans le combat spirituel, dans l'opposition. Confiance en l'Éternel jusque dans l'adoration. Et je suis vraiment dans l'adoration de mon Dieu lorsque je lui fais confiance dans le combat spirituel parce qu'il est le grand vainqueur. Comme le pasteur Nicolas vient de le lire tout à l'heure, il a défié ses puissances en clouant l'acte qui nous était contraire et en livrant spectacle ses puissances et en triomphant d'elles par la croix. Alors le diable laissa et voici les anges s'approchèrent pour le servir. Bien sûr que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais là, on va y laisser ce temps d'être servi par les anges dans ce contexte-là. Et bien entendu, vous savez que la parole de Dieu nous dit aussi dans l'Épître aux Hébreux que les anges sont au service des saints. Et là, ils viennent servir Jésus dans cette grande victoire. Amen.